une histoire particulière. C'est l'été et je vous emmène en voyage. Pendant une heure, chaque dimanche, de 16h à 17h, vous allez découvrir un lieu et son histoire. C'est la collection Été 2019 d'une histoire particulière. C'est maintenant, troisième semaine, troisième étape. Cette fois, nous quittons Paris, par la gare du Nord. Nous allons à Londres en passant par le tunnel sous la Manche. La Manche a été pendant plusieurs siècles un rempart pour l'Angleterre. Elle était ainsi une alliée contre l'invasion de l'île et a joué un rôle décisif lors des différentes guerres. Selon une légende, c'est en 1750 que le géographe Nicolas Desmarets émet le premier l'idée de relier l'Angleterre et le continent européen par un pont, un tunnel ou une digue, les deux pays étant selon lui jadis reliés par une langue de terre. En 1751, il remet à la cour de Louis XV un rapport intitulé « Dissertation sur l'ancienne jonction de l'Angleterre à la France, sa formation par la rupture de l'isthme », mais qui n'évoque pas la construction du tunnel. En 1801, Albert Mathieu Favier conçoit un projet de lien fixe entre l'Angleterre et l'Europe, consistant en un tunnel composé de deux galeries superposées. La première, pavée et éclairée, devait servir aux malles-postes, tandis que la seconde aurait servi à l'écoulement des eaux d'infiltration. Au milieu du trajet, une île artificielle aurait permis une halte aux voyageurs. Les guerres napoléoniennes provoquèrent l'abandon de ce projet. Après de nombreux autres projets, il faudra attendre l'issue du sommet franco-britannique des 10 et 11 septembre 1981 pour qu'un groupe d'experts se prononce néanmoins pour la construction d'un tunnel ferroviaire. La première poignée de main entre les deux côtés a été échangée le 1er décembre 1990. Il faudra attendre mai 1994 pour une inauguration officielle. Le tunnel est composé de deux tubes latéraux parcourus par des trains et d'un tube central de service plus petit. Long de 50,5 km, dont 38 percés sous la mer. De la gare du Nord, en 2h15, nous rejoignons la gare Saint-Pancras International, en plein cœur de Londres. Il nous faudra une vingtaine de minutes environ pour rejoindre en métro la Tour de Londres. Nous la visiterons peut-être plus tard, car nous avons rendez-vous dans le fameux quartier de Whitechapel, où nous attendent Michel Pomared et François Teste.
This episode includes dramatizations.
Cette émission contient des récits décrivant des meurtres et des agressions qui peuvent choquer les auditeurs. Nous vous recommandons de faire preuve de la plus grande vigilance pour les enfants de moins de 13 ans.
Now, enjoy the show.
So, I mean, we're standing on the foundations of St. Mary.
Nous nous trouvons sur les fondations de l'église St. Mary Magdalen. C'est le nom qu'elle avait au Moyen-Âge et qui a plus tard donné le nom actuel de Whitechapel parce que cette chapelle a été blanchie à la chaux. Derrière ce dernier vestige de Sainte Mary Magdalen, c'est le presbytère, bâtiment en briques rouges du XIXe siècle, qui était donc la maison du pasteur, mais qui servait également de lieu de réunion pour la communauté. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Et derrière, vous voyez un immeuble moderne très haut, en vert, ce qui indique que les quartiers de Whitechapel et d'Aldgate sont devenus très à la mode. Donc d'ici, on peut voir l'évolution des immeubles, des bâtiments et leurs fonctions depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui.
Sur les traces de Jack l'Éventreur. Michel Pomared, François Test. Retour à Whitechapel.
Three strong men it takes. Three men to keep one poor woman from having a little drink.
No, no, you'll be feeling fine after a little sleep. Come on.
I'm feeling fine now, you great ape.
You see, miss, it's our duty to protect you from Jack the Ripper. I don't think you mind a bit of protection from a fiend like that, do you?
Whitechapel, c'est ce quartier de l'est de Londres qui, à la fin du 19e siècle, est considéré comme l'autre moitié de la ville. Comprendre la moitié mal agencée, mal famée, mal fréquentée. Ce quartier va faire la une de la presse en raison d'une série de meurtres entre août et septembre 1888. Des meurtres attribués à un tueur en série, Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, Whitechapel est le prototype de la gentrification. Tout est bien rangé, propre et gentillé. On est bien loin de l'atmosphère de films en noir et blanc qui faisait frissonner à l'époque. Mais dans les rues, on rencontre des passionnés qui traquent les fantômes d'hier et les scènes de crime, comme Cal Kopak.
Cal Kopak, where are we going? We are going into Woods Building.
On va à Woods Building. Je n'y suis jamais allé, donc c'est assez nouveau pour moi. Not going to eat it.
No, we're going to go inside.
No. Not going to eat it, please. Close the door, please.
What's inside?
It's a shortcut through to...
C'est un petit raccourci qui tombe dans Doward Street, qui s'appelait avant Bucks Row. C'est un des passages par lequel le tueur est peut-être sorti après le premier meurtre. Aujourd'hui, là, c'est bloqué parce que la rue est complètement délabrée. Je n'étais jamais venu ici avant. C'est la première fois que je vois ce qu'il y a derrière. Tout le monde prend des photos parce que c'est un des passages qu'il a peut-être pris.
Derrière, en fait, c'est une espèce d'arrière-cour avec des gens qui travaillent, visiblement, qui appartiennent au magasin qui est juste là.
Oui, c'est un des problèmes avec le quartier est de Londres en général. Par exemple, le premier lieu du crime, Bucks Row, est maintenant fermé parce qu'on construit un pont juste au-dessus de l'endroit où Polly Nichols a été assassinée. Donc on ne peut pas aller voir le lieu du crime. On n'y a pas accès, c'est juste de l'autre côté du chantier. Moi-même, je ne l'ai jamais vu à cause de ce chantier. Parce que le quartier est change tout le temps et qu'on ne protège pas les lieux de crime, ni rien. D'un côté, je peux le comprendre et d'un autre... Je pense que ça a une importance historique, mais l'évolution du quartier, c'est ce qui prime avant tout.
Entre deux pubs à la mode, fréquentés par des hipsters et des touristes en goguette, on trouve aussi un musée dédié à Jack l'Éventreur. Il propose sur 5 étages une reproduction en carton-pâte d'un bureau de police, d'une morgue, sans oublier la boutique de souvenirs. Dans les haut-parleurs, bien sûr, on crie au meurtre, mais qui ça intéresse vraiment? En tout cas, pas l'historienne Ali Reubenhold, qui a travaillé longuement sur la vie du quartier à la fin du 19e siècle.
At night in Whitechapel, it was...
La nuit, le quartier de Whitechapel n'était pas très bien éclairé. L'éclairage au gaz était encore prédominant, même si l'électricité avait fait son apparition à la fin du 19e siècle. Cet éclairage au gaz produisait une lumière très faible, qui à certains endroits ne donnait qu'un halo de lumière assez restreint en dessous des lampadaires. Pour les piétons, les rues étaient très noires, avec simplement quelques sources de lumière ici et là. Il y avait beaucoup de recoins où l'on pouvait se cacher. Et on se dirigeait surtout grâce à la lumière des fenêtres des maisons et des lampadaires au loin.
Le photographe Louis Berck. I think one of the things that's most interesting about Whitechapel
is that je pense que l'une des choses les plus intéressantes à Whitechapel, c'est qu'on y rencontre l'histoire, une histoire préservée. Des bâtiments qui datent du 18e siècle, certains qui datent de 1680. Et d'autres construits à l'époque moderne. La plupart des gens associent Whitechapel aux événements sinistres arrivés au 19e siècle. Mais c'était en fait un quartier assez rural au 18e. Quand on va dans le centre de Whitechapel, on y trouve des hospices qui ont été construits pour y loger des pêcheurs et des marins. La raison pour laquelle ils ont été construits à Whitechapel, c'est parce que c'était une zone rurale et un endroit agréable pour passer la fin de sa vie. Donc, le côté sinistre de Whitechapel est apparu seulement après la révolution industrielle. La population de Whitechapel a doublé entre 1800 et 1850 avec l'essor de l'industrie. Bien sûr, ça a eu un impact terrible sur le logement et le quartier a perdu son caractère rural pour devenir un quartier industriel extrêmement peuplé. Et c'est à partir de là que se sont développées la pauvreté, la criminalité et tout ce qui est arrivé au 19e siècle.
Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu les vagues de succession de l'immigration dans ce quartier ?
Là, on est à Spitalfields, qui est un petit quartier à l'intérieur de Whitechapel. Spitalfields a connu les vagues successives de l'immigration. D'abord les Huguenots, les protestants français qui fuyaient la persécution en France. Puis, à la fin du 18e et au début du 19e,
les Irlandais, qui fuyaient la pauvreté et la famine dans leur pays. Et depuis longtemps, mais en nombre croissant, des Juifs de Russie et d'Europe de l'Est. Et également aussi de Hollande. Les premiers Juifs à s'être installés ici étaient Hollandais. Et bien sûr, ces communautés changent. Leur niveau de vie évolue. Elles deviennent plus riches et elles partent s'établir ailleurs. Récemment, on a vu se développer une communauté bengali, en majorité originaire de la ville de Sylhet, au nord-est du Bangladesh. Et maintenant, cette communauté, à son tour, part s'installer ailleurs. Alors, qui seront les prochains? On ne sait pas.
Louis Berck, vous êtes photographe. Vous avez travaillé beaucoup sur Whitechapel. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce quartier de l'Est de Londres ?
Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire sociale. Et je pense que Whitechapel est l'un des quartiers les plus intéressants dans l'histoire sociale de l'Angleterre, du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui en réalité. Il y a des lieux d'une très grande importance historique. Ce que je voulais faire, c'était photographier ces lieux parce que tout le quartier est en évolution. Là, nous sommes devant ces toutes nouvelles constructions et certains de ces lieux vont être perdus pour toujours si on ne les photographie pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé.
Carl Kopak, spécialiste de Jack l'Éventreur.
J'étais fasciné, et ça me fait le même effet aujourd'hui, j'en reviens pas, de penser que ce Jack l'Éventreur a marché sur ce trottoir, ici, là où on est en ce moment, dans cette rue. Il a vécu ici, il est passé par ici, il a tué quelqu'un ici. Même si ça s'est passé il y a 130 ans, c'est toujours important pour moi aujourd'hui. C'est un homme qui habitait dans le quartier. C'est le meurtrier le plus connu de l'histoire parce que personne ne sait qui c'était et il était là. C'est pas une histoire inventée, c'est la réalité. Il a vraiment vécu ici.
Est-ce qu'on peut parler des communautés qui gravitent autour de Jack l'Éventreur ?
Tous les spécialistes de Jack l'Éventreur qui travaillent sur les différents cas, on est nombreux, on a chacun un intérêt précis. Je dirais que la majorité s'intéresse à l'identité du meurtrier. Il y a 150 suspects, et pour chaque suspect, même les plus solides, il y a un élément qui les empêche d'être Jack l'Éventreur, et un élément assez important. Par exemple, la conspiration contre la famille royale. C'est énorme. Il est impossible que le prince Victor Albert soit le meurtrier. Il n'était même pas dans le pays pendant l'événement du double meurtre. Certaines communautés s'intéressent aux victimes. Moi, c'est la topographie de Londres qui me passionne. J'adore le fait que la ville change tout le temps. J'aime les cartes, je suis un vrai geek pour ce genre de choses. J'aime faire des découvertes. J'étais jamais allé à Woods Building derrière nous, donc j'ai pris une photo parce que Jack l'Éventreur aurait pu passer devant, tout simplement.
Une idée des couleurs des façades.
Il y a beaucoup de briques rouges, beaucoup de briques locales, parce qu'on est à côté de Brick Lane. Ce sont des couleurs douces, des bâtiments typiques du XVIIIe siècle. On voit que les fenêtres sont sur le même plan que la façade des bâtiments. L'ordonnance de construction qui a été passée après le grand incendie de Londres exigeait que les fenêtres soient en retrait, enfoncées dans la structure des bâtiments pour éviter que le feu ne se propage de fenêtre en fenêtre. Mais ces bâtiments sont si vieux que les fenêtres sont sur le même plan que la façade, de superbes fenêtres arrondies. Il y a beaucoup d'espace, des immeubles très imposants, car ce sont ces immeubles que les tisserands huguenots ont choisi de préférence. Ils y ont installé leur métier à tisser au dernier étage pour avoir la meilleure lumière. Vous pouvez en voir un exemple. Et il y en a quelques-uns qui subsistent, qui ont été récupérés par les fabricants de vêtements juifs arrivés au XIXe siècle. Et tout ce quartier a changé au XIXe siècle. On y a installé des ateliers. Ces maisons sont devenues un lieu important de fabrication de vêtements, bien sûr, toujours en lien avec l'industrie textile. Ici, on voit l'enseigne H. Suskin qui est restée. Mais l'atelier est visiblement parti il y a longtemps. Je vais vous emmener à Princelet Street, où il y a une très belle perspective.
Ali Urbano, est-ce qu'on pourrait faire un portrait de Whitechapel au niveau de l'atmosphère? Comment est-ce que c'était à l'époque de Jack l'Éventreur?
In the late 19th century, Whitechapel was
à la fin du 19e siècle, Whitechapel était l'un des quartiers les plus pauvres de Londres. Il y avait bien sûr aussi des habitants des classes moyennes, pas que des pauvres. Mais dans Whitechapel, il y avait Spitalfields. Et Spitalfields, c'était le cœur noir de Whitechapel, dans lequel on trouvait les rues les plus miséreuses et les pensions les plus délabrées. Le pire, c'était probablement les meublés. Des chambres de moins de 8 mètres carrés où s'entassaient des familles entières, dont les murs s'effritaient, dans lesquels les cheminées rejetaient une fumée noire et où les escaliers s'affaissaient. À l'extérieur, les ordures traînaient partout, au milieu de flaques d'eau stagnante. C'était très dangereux. Les gens étaient violents. Si vous alliez dans une de ces pensions, et c'est ce que décrivent les enquêteurs sociaux de l'époque qui visitaient ces logements, on découvrait des gens brutaux, violents, sales. Beaucoup de gens ne se lavaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Il y avait beaucoup d'alcoolisme. Beaucoup d'histoires racontent à quel point les gens vivaient les uns sur les autres. Des familles vivaient à 5 ou 6 dans une seule pièce, où il n'y avait qu'un lit et tout le monde dormait dans le même lit, à même le sol. Il y a aussi des histoires où des enquêteurs pénétrèrent dans un de ces logements et trouvent deux enfants dans un lit, mais l'un d'entre eux est mort, attendant d'être enterré. Des histoires terribles comme celle-ci. De gens qui ont vendu tous leurs meubles, ainsi que leurs vêtements, et qui sont recroquevillés dans un coin de la pièce dans une pauvreté épouvantable. On est très près de l'endroit où on a retrouvé la deuxième victime, Annie Chapman, le 29 septembre 1988. Ici, nous sommes à Princelet Street. La plupart des immeubles ici ont été rénovés, restaurés, car ils tombaient en ruine.
Est-ce que vous, Louis Berk, vous vous intéressez à l'identité de ce Jack l'Éventreur?
Non, pas particulièrement. Je suis photographe. Quand on photographie Whitechapel, il est pratiquement impossible d'éviter les lieux où ont été commis les meurtres. La raison pour laquelle je me suis intéressé à Jack l'Éventreur, c'est parce que je prenais des photos de lieux qui étaient chargés historiquement et que je voulais connaître cette histoire. Je pense que comme tout le monde, je trouverais passionnant de connaître l'identité du tueur si quelqu'un la découvrait. Mais j'ai l'impression que c'est hautement improbable. On ne saura jamais ce qui s'est véritablement passé.
Karl Kopak, est-ce que, avant Jack l'Éventreur, vous intéressiez aux serial killers ?
Oui et non.
Je me suis toujours intéressé aux tueurs en série parce que j'ai grandi à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, dans les années 70-80, où sévissait Peter Sutcliffe à l'époque. On l'appelait l'éventreur du Yorkshire. Et même si je viens du nord-ouest plutôt que du nord-est, il a commis des crimes deux fois à Manchester. Et je me rappelle que ma mère avait peur d'aller au travail parce qu'on habitait sur la East Lancashire Road entre Liverpool et Manchester et elle se disait « Un jour, ça peut tomber sur moi, il va peut-être venir à Liverpool ». À l'époque, on ne savait pas qui était l'éventreur du Yorkshire et il aurait pu venir à Liverpool. Quand on l'a arrêté, je me suis rendu compte qu'il était très près de chez nous. Je me suis intéressé à lui. Il était recherché dans tout le pays et quand il a été arrêté, on s'est rendu compte que c'était un homme ordinaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il était sans intérêt en réalité. C'est pas l'homme qu'on s'imagine en habit et chapeau de forme. Et mon intérêt pour l'éventreur, ça vient de là en réalité. C'était pas un génie, il a simplement eu beaucoup de chance. Peter Sutcliffe a été interrogé 9 fois par la police, avant finalement de se faire prendre par hasard. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'était un homme comme un autre qui sortait pour aller acheter le journal, qui rentrait chez lui, qui tuait des prostituées. Et c'est ce petit détail qui a éveillé mon intérêt.
Est-ce que vous êtes sûr que c'est un homme ?
Oui, 100% sûr. Parce que, à part le premier meurtre, il y a eu des témoins pour tous les autres meurtres. Il y en a un qui paraît un peu louche pour le cinquième meurtre, mais ils disent tous que c'était un homme qui portait des vêtements d'homme. Deux ou trois témoins, un en particulier, ont dit que c'était un étranger. Étranger voulait dire juif. C'est ce que ça voulait dire à ce moment-là, parce qu'il y avait une population juive importante dans ce quartier à cette époque.
Est-ce qu'il y aurait pu y avoir plusieurs Jack l'Éventreur ?
Oui, ça se pourrait bien, en effet. Les tueurs d'imitation qui copient les meurtres des autres, ça existait. Et la meilleure preuve, c'est que les témoins donnent une description de lui à chaque fois un peu différente. Il n'y en a pas une qui fasse autorité. Il y en a un qui dit qu'il avait environ 40 ans, un autre qui dit qu'il avait 25-30 ans. Les dépositions des témoins, par définition, ne sont pas toutes dignes de foi. Souvent, les gens ne se rappellent plus ce qu'ils ont vu parce qu'on s'attend pas à tomber sur un tueur en série. Mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup qui tuaient exactement de la même façon à chaque fois qu'ils commettaient un meurtre. Jack, à défaut de pouvoir l'appeler autrement, tuait toujours de la même façon. D'abord, il leur tranchait la gorge, il leur coupait la carotide de gauche à droite et il les mutilait.
Toute simple. Comment est-ce qu'on connaît la signature de Jack l'Éventreur ?
Il était connu au début comme le monstre de Whitechapel ou le tablier de cuir. Donc il n'avait pas ce nom devenu cool de Jack l'Éventreur. Jusqu'à ce que la lettre dite « Dear Boss Letter » soit envoyée à l'agence de presse Central News de Londres.
« Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I've laughed when they look so clever and talk about being on the right track. That joke about leather apron gave me real fits.
C'est une lettre qui a été écrite d'une très très jolie écriture et qui commençait par ces mots, Dear Boss, et qui raconte à la police ce qu'il a fait, j'ai fait ça, ça et ça, et à la fin il signe, cordialement, Jack l'Éventreur. C'est la première fois que le terme était employé. Quelle que soit la personne qui a écrit cette lettre, je suis sûr que ce n'est pas l'assassin. L'assassin n'aurait jamais écrit cette lettre. L'écriture est trop belle, vraiment. J'aimerais bien avoir une aussi belle écriture. On peut penser que c'est un leurre pour que l'histoire continue de faire la une des journaux.
My knife's so nice and sharp. I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Yours truly, Jack the Ripper.
Louis Berck, quelle est l'adresse ici ?
This is 19 Princelet Street, which is a
ici, on est au 19 Princelet Street, devant une maison typique du 18e siècle. Mais au 19e siècle, cette maison a été transformée en synagogue, à l'arrière du bâtiment. Bien sûr, depuis, la population juive est partie, et ce n'est plus un lieu de culte aujourd'hui.
Si on revient au meurtre attribué à Jack l'Éventreur, est-ce qu'il n'y a pas eu des relents d'antisémitisme par rapport, justement, à qui était l'identité du meurtrier et peut-être je fais référence à un graffiti, par rapport aux Juifs qui étaient dans ce quartier.
Oui, c'est vrai. La police était assez inquiète des réactions violentes à l'encontre de la communauté juive, parce que lors de ce genre d'événements, on s'en prend souvent aux populations étrangères. Et donc la communauté juive a été surveillée de près. Il y a eu plusieurs suspects juifs, aucun n'a été retenu. Mais oui, la communauté juive a subi beaucoup de tensions, que l'on qualifierait aujourd'hui de racistes, liées à ce qui s'est passé ici.
This is the 18th century church of Mère Église.
Voici la Mère Église du 18e siècle, qui était à l'origine une chapelle protestante. Vous voyez d'après l'inscription qu'elle a été construite en 1743. Sur le cadran solaire, on peut lire « Umbra Sumus », ce qui signifie en latin « nous ne sommes qu'ombre », ce qui est très significatif. Vous voyez, sa construction, elle est quasiment inchangée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reflète les vagues successives d'immigration. Quand les Huguenots sont partis, c'est devenu une chapelle méthodiste. Lorsque les méthodistes sont partis, c'est devenu une synagogue, la grande synagogue de Brick Lane. Et lorsque la population juive est partie, dans les années 1950-60, c'est devenu une mosquée, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Donc vous voyez, le bâtiment reflète les changements de population au cours de l'histoire, des protestants français jusqu'à l'arrivée de la communauté bengali.
Est-ce que si on revient dans 20 ans, cette mosquée pourrait devenir une galerie d'art ?
Undoubtedly.
Oui, bien sûr. Ce quartier change constamment. Il n'y a aucun doute là-dessus. En partie parce que les populations du quartier migrent, mais aussi parce que le commerce se développe et que la ville se déplace vers l'est. Les loyers augmentent, ce qui pousse certaines communautés à partir. Donc, comme vous, je me demande moi aussi à quoi ressemblera ce quartier dans 20 ans.
Les détails du premier meurtre, par vous, Karl Kopak, dans cette rue, c'est quoi ?
Cette rue, qui s'appelle maintenant Durward Street, s'appelait Box Row en 1888. Elle était beaucoup plus petite. Et là où on est maintenant, c'était à l'époque l'angle de Brady Street. Et ce jour-là, à 3h40 du matin, le 31 août 1888, un certain Charles Lechmer, en arrivant au coin des rues, a aperçu la forme d'une femme. Il s'est approché pour voir si ça allait, quand un autre homme est arrivé au coin de la rue, un certain Robert Paul, qui a déclaré « Je pense que cette femme est ivre ». Ils se sont dit qu'elle était peut-être morte. Ils n'avaient pas vu de traces de violence sur son corps, et l'un d'entre eux croyait sentir son pouls. Et Whitechapel étant le Whitechapel de l'époque, enfin, c'est fou quand on y pense. Ils sont partis au travail et l'ont laissé là. Il n'y avait pas beaucoup de meurtres à Whitechapel. La violence n'était pas rare, mais les meurtres, si. Par exemple, il n'y avait pas eu de meurtre l'année précédente à Whitechapel. Mais il y avait déjà eu des prostituées qui avaient été attaquées et assassinées. Donc ils ont appelé le sergent Dr. Levlin qui a déclaré qu'elle était décédée. Mais ce n'est que quand ils l'ont amenée à la morgue à Old Montague Street, ici un peu plus bas, sur la droite, et qu'ils lui ont retiré ses vêtements, qu'ils se sont rendus compte qu'on lui avait ouvert l'abdomen. Sa gorge était tranchée si profondément que sa tête n'était quasiment plus accrochée à son squelette. Et ça s'est passé juste là. C'est le meurtre qui, véritablement, a déclenché toute l'affaire.
Quand vous vous promenez dans Whitechapel, qu'est-ce que vous ressentez, vous ?
Whitechapel a incroyablement changé. On a du mal à reconnaître le quartier. Vous allez à Whitechapel aujourd'hui, vous allez à Spitalfields, et là où on trouvait ces pensions délabrées, ces pubs crasseux et ces gens qui faisaient la manche dans la rue, il y a maintenant des businessmen, des hipsters dans les cafés branchés, des magasins de luxe, des maisons qui se vendent des millions.
There is a ghost
Le fantôme du passé rôde encore. Mais le Londres de Jack l'Éventreur a disparu.
Anyone, please spare any change at all, ladies and gents. I really am sorry for asking. I'm not proud of being here, I really ain't. You know, I'm just trying to stay warm for tonight. I really am sorry for asking, ladies and gents. If anyone could spare anything, we'd be grateful, I mean that.
Sur les traces de Jack l'Éventreur. Gros plan sur les victimes.
Il y a eu 11 meurtres à Whitechapel qui se sont produits entre 1888 et 1891. Certains disent que tous ces meurtres font partie de la période de terreur de Jack l'Éventreur. D'autres disent que non. Mais les meurtres sur lesquels on peut se mettre d'accord sont les meurtres de 5 femmes. Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly.
Oublions le musée dédié à Jack l'Éventreur dans le quartier de Whitechapel. Oublions ces 5 étages, pas toujours du meilleur goût, avec la reproduction soi-disant à l'identique de la chambre d'une des victimes, forcément une femme de mauvaise vie, avec son lit défait et ses bouteilles de gin renversées sur le sol. Et écoutons le point de vue plus respectueux d'amateurs qui se sont rassemblés au sein de l'association la Whitechapel Society.
Je suis Ruby Vittorino, je suis étudiante, écrivaine de scénario, recherche historique. La Whitechapel Society, c'est une société qui étudie l'histoire, surtout de ce quartier de Londres, qui est le East End, surtout du 19e siècle, et surtout l'histoire de Jack l'Éventreur.
Vous, Ruby, dans cette histoire, qu'est-ce qui vous intéresse?
Au départ, c'était l'histoire de Jack l'Éventreur. Et maintenant, c'est moins de ça, mais c'est l'histoire du 19e et ce quartier en général. Je pense qu'on est tous là. L'histoire de Jack l'Éventreur, c'est vraiment que le départ pour la plupart des gens.
Les archives sur le 19e siècle, depuis des années, elles sont exploitées. Qu'est-ce que vous allez trouver de nouveau?
De plus en plus, il y a d'autres archives qui deviennent disponibles. Il y a toujours des photographies, par exemple, qui étaient prises, emportées par des gens, des policiers, par exemple, qui étaient dans l'époque, et que leur famille, peut-être eux, ils tiennent des photographies ou des papiers particuliers que maintenant on a accès. Il y a toujours, toujours quelque chose de nouveau à découvrir.
Hello and welcome to RipperCast, your podcast on Jack the Ripper and the Whitechapel murders.
Au menu de la Whitechapel Society, un podcast intitulé RipperCast. En anglais, Jack l'Éventreur se dit Jack the Ripper.
Je m'appelle Linda Civita, je fais des recherches en histoire, je m'intéresse à Jack l'Éventreur depuis 30 ans et j'organise des visites guidées dans ce quartier est de Londres depuis 17 ans.
Vous êtes une femme, vous faites un parcours sur les traces du tueur de femmes. D'abord, qu'est-ce que ça vous a fait à vous ?
J'ai toujours ressenti beaucoup d'empathie pour les femmes dans cette histoire. Peut-être parce que ce sont des femmes. J'ai toujours pensé que les familles des victimes devraient pouvoir obtenir justice et que ce serait bien qu'on découvre un jour qui était Jack l'Éventreur. Au cours de toutes ces années, j'ai rencontré plusieurs descendants des familles de ces femmes et ils sont tous fascinés par l'histoire. Certaines familles sont réticentes, timides à l'idée de s'impliquer, mais d'autres sont très enthousiastes. Tout le monde a des réactions différentes. La première fois que j'ai suivi un parcours dans Whitechapel, j'étais très jeune. J'ai commencé mes recherches à l'âge de 12 ans, donc ça fait presque 30 ans que je m'intéresse à ça, sans parler des visites que j'organise maintenant. Donc j'ai toujours été passionnée par cette histoire.
Pourquoi cette fascination et pourquoi autant d'années ?
La première fois que j'ai vu le film avec Michael Caine, en 1988, un long métrage très connu sur ce sujet qui s'intitule Jack l'Éventreur, j'étais collégienne et je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'époque victorienne, aux énigmes, à Sherlock Holmes. J'ai vu ce film et ça a changé ma vie en quelque sorte, parce que je voulais savoir qui était le tueur. Et c'est ce qui reste le plus important pour la plupart des gens, toujours aujourd'hui, parce que tout le monde aime les énigmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux obtenir justice pour ces femmes. Je le ressens personnellement, peu importe que ça ait eu lieu il y a 100 ou 200 ans. La façon dont ces femmes sont mortes est tellement barbare, tellement atroce, qu'il faudrait que l'auteur de ces crimes soit traduit en justice.
Karl Kopak, est-ce qu'il y a une signature dans les crimes qui permettent d'identifier le tueur?
Il opérait de façon presque scientifique. D'abord, il les égorgeait. Tous les rapports disent qu'il y avait des bleus sur les joues et dans le cou, ce qui indique qu'il les frappait violemment. Puis, par derrière, il leur coupait la gorge de gauche à droite. Et on pense qu'il faisait de la sorte car la carotide tranchée de cette façon ne fait pas couler trop de sang. A l'inverse, si on coupe de droite à gauche, c'est une véritable effusion. L'éventreur lui-même aurait été couvert de sang et donc plus facile à trouver. À cause de cette méthode, on pense qu'il travaillait dans un abattoir ou qu'il était chirurgien, ce que je trouve difficile à croire personnellement. Après, il les mutilait. On dit souvent que Jack l'Éventreur était un tueur sadique. Pas du tout. La vie ne l'intéressait pas. Il voulait y mettre fin le plus rapidement possible. Il voulait les organes. Il voulait pénétrer le corps.
Ali Ruben-Hold, vous êtes historienne et vous publiez un livre consacré aux 5 victimes canoniques de Jack l'Éventreur. Quel était le point de départ de cette recherche ?
Je voulais écrire un livre qui s'inscrirait dans la continuité de mon travail de recherche sur le XVIIIe siècle et la prostitution. Je cherchais des sujets possibles. Et je me suis demandé quelles étaient les prostituées connues au XIXe siècle. Et bien sûr, j'ai tout de suite pensé aux prostituées de Jack l'Éventreur. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de mes recherches, je me suis vite rendu compte que je ne trouvais pas d'éléments qui me permettaient de dire qu'elles étaient prostituées. Et c'est ce qui m'a paru le plus surprenant. La victime que j'ai trouvée la plus intéressante, même si bien sûr elles le sont toutes, c'est Annie Chapman, la deuxième victime. Annie Chapman avait, je pense, la vie la plus prometteuse parmi les 5 victimes. Elle avait épousé un cocher qui travaillait pour un gentleman. Elle naviguait dans les plus beaux quartiers de Londres, Knightsbridge, Belgravia, St. James, et dans une propriété à Windsor. Ils avaient assez d'argent pour envoyer leur fille dans une bonne école. Je pense qu'ils auraient pu accéder à une classe sociale largement supérieure. Ils auraient pu faire partie de la classe moyenne. Leur fille aurait pu faire de beaux mariages. Le problème, c'est qu'Annie était alcoolique. Et c'est finalement ce qui l'a fait plonger, ce qui a fait qu'elle a été prise dans une spirale infernale. Son mariage en a souffert. Elle a été envoyée dans un des premiers centres de désintoxication pour femmes pendant un an à Londres. Elle s'en est sortie, puis elle a replongé. Et finalement, elle s'est séparée de son mari et elle s'est retrouvée à Whitechapel. Annie Chapman n'était pas du tout une prostituée. Dès le début des meurtres, on a pensé qu'il y avait un motif caché. On pensait que Jack l'Éventreur était un tueur de prostituées. Toutes les victimes de Jack l'Éventreur venaient de familles brisées et n'avaient plus de foyer. La plupart d'entre elles avaient été mariées, avaient eu des enfants, et le fait qu'elles soient séparées de leur mari ou qu'ils soient morts faisait d'elles des femmes sans foyer, sans but dans la vie.
And Victorian society was orchestrated in such a way that a woman could not be independent.
La société victorienne était organisée de telle façon qu'une femme ne pouvait pas être indépendante d'un homme. Il fallait qu'une femme ait un homme. Et ça marchait pour les hommes aussi d'une certaine façon. Pour les plus pauvres, ils dépendaient véritablement les uns des autres. Donc si une femme ou un homme se retrouvait veuf ou veuve, ou s'ils s'étaient séparés de leur conjoint, il fallait vite retrouver quelqu'un. Un homme avait besoin d'une femme pour lui faire à manger, faire le ménage, la couture, et les femmes avaient besoin d'un homme qui les aide. Parce que le salaire des femmes au XIXe siècle était ridicule. Les femmes ne pouvaient pas être le soutien de famille. Dans le cas d'Annie Chapman, par exemple, son mari était toujours vivant. Mais une fois séparée, elle avait besoin qu'un homme l'aide. Même si elle recevait 10 shillings par semaine de pension de son mari, Annie était alcoolique, véritablement dépendante de l'alcool. Elle dépensait probablement ses 10 shillings en boissons. Et elle avait besoin qu'un homme la protège. Et aussitôt qu'elle a retrouvé un homme, on l'a considérée comme adultère. Au XIXe siècle, une femme qui avait des relations sexuelles hors mariage, quelles que soient les circonstances, était une femme détruite, déchue. À l'époque, on avait peu de notions du nombre de personnes qui vivaient dans la rue. Des sans-abri, des vagabonds, mendiants, prostituées. Ils étaient tous mis dans le même panier. On ne faisait pas de différence. Cette femme mendie, celui-là est sans abri, celle-là c'est une prostituée. On faisait peu d'efforts pour différencier les groupes sociaux à cette époque-là.
Guide Lindsay Sylvester.
Beaucoup de recherches ont été menées sur les victimes. L'écrivain Neil Sheldon est l'un des premiers à avoir cherché à interviewer des membres de la famille des victimes il y a une dizaine d'années. Lorsque j'organise aujourd'hui des parcours dans le quartier, les gens sont choqués d'apprendre que Polly Nichols, la première victime, après avoir donné naissance à son cinquième enfant, voit son mari partir avec la nurse, s'installe dans une nouvelle vie et crée une nouvelle famille juste au coin de la rue. Je pense qu'on ignore que ces femmes ont été conduites à se prostituer, qu'elles ne sont pas nées prostituées. C'est une situation qui arrive suite à des problèmes de vie domestique et familiale. Souvent, leur parcours se ressemble étrangement. Essayer de recueillir ces histoires est absolument passionnant. 5 enfants et elle se retrouve sans abri, sans maison, sans rien. C'est pour ça qu'elle se retrouve à la rue et qu'elle est obligée de se prostituer. Je pense qu'il y a beaucoup de mythes que les films perpétuent, que ce sont des filles de joie, qu'elles aiment cette atmosphère de bordel. Mais c'est tout simplement faux. Elles sont dans la fange de la société. Elles ont été chassées, elles n'ont nulle part où aller, elles n'ont plus de maison. Elles sont, au sens propre, à la rue. Et elles doivent trouver 4 pennies pour payer leur lit tous les soirs. Je m'intéresse d'ailleurs aussi à l'histoire sociale de la prostitution. Et j'en parle pendant les visites. Il faut davantage réfléchir aux raisons pour lesquelles elles sont arrivées à Whitechapel, pourquoi elles en sont arrivées là, et pas seulement se souvenir d'elles comme des victimes de Jack l'Éventreur.
Alors on va passer par là, vous me suivez, on va couper ensuite dans un petit coupe-gorge, c'est le cas de le dire. Ici, LJ au sol.
Dans les rues de Whitechapel, les guides rivalisent les uns avec les autres, et en cherchant bien, certains parlent français et n'épargnent aux participants aucun détail.
Il a relevé ses jupes, il lui a ouvert également la cavité abdominale, il en a retiré les intestins qu'il a déposés à côté de son épaule.
Sur cet aspect du commerce autour de Jack l'Éventreur, est-ce que vous pouvez me raconter combien est-ce que de gens qui passent leur temps la nuit à marcher sur les traces du tueur.
L'histoire de Jack l'Éventreur rapporte beaucoup d'argent d'un point de vue commercial. Quand j'ai commencé les parcours dans le quartier il y a environ 20 ans, il y avait 12-15 personnes chaque soir. Aujourd'hui, j'ai 40 personnes tous les soirs, en plus des autres guides, bien sûr. Donc ça a pris une ampleur incroyable. Quand j'ai débuté, nous n'étions que 2 ou 3. Aujourd'hui, il y a 20 entreprises touristiques. Donc oui, c'est un commerce important. Tous les soirs, ce sont des centaines de personnes qui font le parcours dans les rues de Whitechapel. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, une nouvelle série télé, le nombre des participants augmente. La fascination ne fait qu'augmenter, ça ne s'arrête pas. J'ai remarqué, parmi les gens qui viennent, qu'avant c'était des Britanniques et parfois quelques Américains. Mais aujourd'hui, je vois des Japonais, des personnes que je ne voyais jamais auparavant, venant de pays asiatiques ou d'autres. C'est étrange, ça touche le monde entier. Et quand je parle à ces gens, je leur demande « Vous avez entendu parler de Jack l'Éventreur ?» Et ils me répondent « Bien sûr ». Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que c'est une histoire qui est connue dans le monde entier. Et c'était le cas à l'époque, ça continue d'être le cas aujourd'hui. Well, I'm Jack the Reaper, I'm opposite to you. I think you've heard of me, I'm the one with the hooded suit. I'm never coming back home with our little souvenirs. And this time, boy, you've just met Jack and that's a fact. We should get an answer, we should get some cash. We should have to go away and leave behind the trash. We should get an answer, we should get some cash. We should have to go away and leave behind the trash. Well, I'm Jack the Reaper, always walking with the stick.
Austin Harney, on est dans un pub... dans Whitechapel, à quelques encablures des lieux de meurtre de Jack l'Éventreur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé il y a quelques années de faire quasiment une promenade ou une description des lieux de crime, mais en vous intéressant uniquement aux victimes? Quelle est votre motivation par rapport à cette histoire?
We sincerely believe.
Nous pensons vraiment qu'on devrait moins s'intéresser à ce meurtrier. Peu importe qui il était, ce n'est pas le sujet. Et plus à ses victimes et à ce qu'elles ont subi. C'est incroyable que cet assassin attire autant l'attention. Il est temps de réécrire les livres d'histoire. On devrait parler davantage des victimes, pourquoi elles sont devenues prostituées. Pour la plupart d'entre elles l'ont fait contre leur gré. Elles ont commencé assez tard. Elles sont mortes de la façon la plus horrible et la plus sordide. Et tout à coup, bizarrement, on s'intéresse plus à l'assassin qu'à ces pauvres femmes.
Ici, dans le quartier, les groupes, on pourrait dire, se croisent. Certains cherchent des traces du meurtrier, d'autres s'intéressent à la topographie des lieux, ont appris par cœur des descriptions. Comment est-ce que vous apportez quelque chose de nouveau dans votre parcours ?
J'explique au public qu'il s'agit de malheureuses femmes qui sont mortes dans des circonstances tragiques. Je n'explique pas comment le meurtrier a commis ces crimes. Je n'entre pas dans les détails des meurtres, délibérément. Les photos qui sont publiées sur Internet sont une honte. Je refuse de les montrer pendant la visite. Et pour rappeler le souvenir de ces femmes, je raconte également leur vie, ce qu'elles ont vécu et leur fin tragique. Une fin qu'elles ne méritaient pas. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de faire passer le message au public.
Karl Kopak, qu'est-ce qui vous intéresse dans Jack l'Éventreur ? Est-ce que c'est la recherche ou c'est l'identité ?
C'est la recherche. Je ne m'intéresse pas du tout à l'identité du tueur. L'histoire de Jack l'Éventreur n'est pas qu'une histoire de tueur. Ça parle de la pauvreté, de l'alcoolisme et de la prostitution en 1888. Ça parle de l'Angleterre victorienne, du fait que Londres était la plus grande ville du monde à cette époque, et pourtant, cette partie de la ville où nous nous trouvons en ce moment était complètement délabrée. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. On trouve beaucoup d'informations en ligne sur ce sujet, et c'est aussi ça qui continue de m'intéresser. Mais l'identité du tueur, je pense qu'on serait déçus si on l'apprenait tout à coup.
Quelles sont les thèses les plus, on va dire, fantastiques ou les thèses qui circulent, qui vous surprennent le plus sur l'identité même du tueur ?
que Jack l'Éventreur était une femme, qu'il y ait eu plus qu'un seul assassin. Ces questions sont toujours d'actualité malgré 30 ans, 40 ans de recherche. Je sais qu'en ce moment, se prépare un film sur Mary Pearcy pour savoir si c'était Jill l'Éventreuse. C'est une théorie qui existe depuis quelques années. Il y a un livre qui est sorti sur Mary Pearcy récemment qui soutient cette thèse et le film va peut-être aller dans le même sens. Ce n'est pas nouveau. Arthur Conan Doyle pensait que Jack était en fait Jill. Jill, une sage-femme devenue l'Éventreuse. Donc encore une fois, ce n'est pas nouveau. En réalité, ces idées sont apparues dans les années 80 et elles ont toujours cours aujourd'hui. Régulièrement, on entend de nouvelles théories, de nouvelles idées. Mais elles ne sont pas toujours nouvelles. En réalité, on ne peut pas étendre indéfiniment le nombre d'idées nouvelles. Dans le bas quartier de Whitechapel, on l'appelait Abigail. Sans amour, elle vivait l'âme en paix, d'être née sans être belle. Mais qui est l'homme en McFarlane qui a choisi Abigail parmi toutes les demoiselles du quartier de Whitechapel? Dans le bas quartier de Whitechapel, qui est devenu Abigail. Quelques jours avant Noël, c'était à la une des nouvelles. Mais qui est l'homme en McFarlane qui regardait Abigail comme l'unique demoiselle du quartier de Whitechapel?
Qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler sur cette question?
Je crois que comme je me suis intéressée à ce sujet quand j'étais adolescente, j'ai voulu continuer, devenir historienne, en faire mon métier. Donc j'ai suivi des cours d'histoire dans plusieurs universités. Et comme j'étais passionnée par les histoires vraies, les histoires criminelles, je rêvais de travailler à Scotland Yard. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans leur fameux Black Museum, le musée dédié au crime, jusqu'à récemment. Donc cette histoire a complètement changé ma vie, ça lui a donné un sens. Parce que j'ai compris à ce moment-là que ce qui m'intéressait, c'était les énigmes, les histoires criminelles et les tueurs. Donc ça a été déterminant pour ma carrière.
À quoi servait Jack l'Éventreur hier, avant-hier, et à quoi sert Jack l'Éventreur aujourd'hui?
L'historienne Ali Reubenhold.
Notre société est toujours obsédée par Jack l'Éventreur. Mais on est obsédé parce qu'on veut savoir qui était le tueur. Pour beaucoup, c'est comme un jeu de société, comme un roman policier. Et si on essaie d'imaginer qui aurait pu être Jack l'Éventreur, voilà qu'on imagine tout un tas de théories. En réalité, les personnes qui émettent toutes ces théories ne sont pas forcément celles qui connaissent le mieux les recherches qui existent déjà, ni les preuves établies, ou qui peuvent évaluer la fiabilité de ces documents. La plupart de ce qu'on sait de Jack l'Éventreur vient de reportages tirés de la presse à sensation. Les fake news existaient déjà au 19e siècle, comme elles existent aujourd'hui. Il faut se rappeler que la plupart des dossiers, des informations sur ces 5 femmes sont perdues. Les dossiers ont disparu. Il y a des rapports de police, mais ils sont incomplets. Il manque des documents. En tant qu'historien, on le sait, on accorde moins de poids à certains éléments et plus à d'autres. Et même pour les documents auxquels on accorde du crédit, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'un officier de police indique-t-il prostituée dans la case profession? Les gens ne s'intéressent pas à l'analyse en détail de ces sources parce que ça leur enlèverait du plaisir, à savoir découvrir qui était Jack l'Éventreur. Résoudre ce mystère. Aujourd'hui, comme hier, c'est ce qui attire. Mais à l'époque, c'était impératif en 1888. Il fallait qu'on trouve ce tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Aujourd'hui, cet impératif n'existe plus. Il s'agit simplement de divertissement.
Il y a deux Jacques l'Éventreur je dirais. Il y a le personnage historique qui intéresse nous avec l'histoire sociale, mais aussi il y a cette personne mythique dont est partie de notre culture, qui n'a rien à voir avec la réalité, le personnage avec le chapeau haut, avec le cap, tout ça.
Mais est-ce que le deuxième Jack l'Éventreur, c'est un symbole, par exemple, machiste, qui veut s'en prendre aux femmes? Est-ce qu'on peut avoir aussi cette lecture-là?
Il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec vous, je pense. Il y a des gens qui font de l'argent sur le dos de ce Jack l'Éventreur mythique. Et nous, dans notre société, par exemple, il y a beaucoup de débats sur où se trouve la ligne entre le Jack l'Éventreur qui intéresse nous et ce Jack l'Éventreur qui est utilisé pour faire de l'argent.
Mais qui fait les tours? N'importe qui?
En général, c'est des historiennes, par exemple, pour qui travaille Lindsay, c'est quelqu'un qui est qualifié de raconter l'histoire. Et quelqu'un comme lui, je le connais, il ne veut pas montrer des photographies de victimes pour faire de l'argent, mais il reconnaît qu'il y a des gens qui ont envie de savoir. Et moi, personnellement, je pense que c'est important de savoir, parce que quand on voit, on comprend quelle horreur c'était. Mais donc, il passe les photographies toujours cachées. Et c'est pour les gens à décider s'ils veulent voir ça ou s'ils n'ont pas besoin de savoir. Ce n'est pas quelque chose qui est montré pour faire des frissons ou quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui veulent faire de l'argent, qui vont mettre ça, ces images, en avant. C'est sûr qu'ils vont avoir les t-shirts faits avec des images, avec le Jack l'Éventreur mythique. Et, parce que, voilà, parce qu'il y a aussi un marché pour ça. Ça dépend de ce qu'on cherche.
De Jack l'Éventreur avec le photographe Louis Berck, Ruby Venturino, Lindsay Sylvester et Karl Kopak de la Whitechapel Society, le syndicaliste Austin Harney et l'historienne Ali Rubenhold. Traduction Caroline Ferrard avec les voix de Thierry Beauchamp, Arnaud Carbonnier et Pauline Dubreuil. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarel.
Particulière, c'est fini. Dimanche prochain, à 16h, ce sera la suite de notre voyage vers un autre lieu, une autre histoire. En attendant, à 17h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.